17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rester bien calé sur votre radio préférée, Beurre FM, un peu partout en France, sur la FM et sur le numérique terrestre, à Paris sur le 106.7. Et puis une petite pensée à nos auditeurs de Montpellier qui viennent de nous recevoir depuis quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, une émission spéciale consacrée à la disparition d'Abdelaziz Bouteflika, qui a régné pendant une vingtaine d'années. Et le mot règne n'est pas un petit mot, hein, c'était carrément sa majesté, et un président à vie, comme d'autres l'ont dit par ailleurs, et qui défrait la chronique depuis l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il a été intronisé par son mentor, le colonel Houari Boumediene, de son vrai nom Mohamed Boukharouba, qui a donc confisqué l'indépendance des Algériens. Et donc on reviendra dans un instant sur tout ça avec un invité particulier, quelqu'un qui a une vision très particulière de l'histoire de l'Algérie, qui a écrit de nombreux livres. Je veux parler de Brahim Elmili. Merci Brahim d'être présent parmi nous. Alors, vous avez écrit, bien sûr, tout récemment, l'histoire secrète de la chute de Bouteflika aux éditions Archipel, qui est paru en 2020 et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes librairies. Mais vous êtes un observateur assez assidu et très perspicace de tout ce qui se passe dans cette région, puisque vous avez écrit sur les printemps arabes et que vous avez aussi, par exemple, aussi publié un livre aux éditions Fayard sur l'histoire secrète et les relations entre la France et l'Algérie. Donc, un analyste et un observateur très assidu de la politique nord-africaine, algérienne, de façon générale. Alors, Bouteflika vient de disparaître, et on lui a fait quasiment un petit enterrement en catimini. Alors, moi, j'aimerais que vous réagissiez à trois petites choses. Pardon. Le dessinateur Dilem a fait une caricature le jour de sa disparition. Bouteflika est mort, et quelqu'un dit, mais il est mort de quelle maladie? Et Dilem dit, il est mort du pouvoir. Donc, c'est du pouvoir. La deuxième chose sur laquelle je voudrais que vous réagissiez, c'est le communiqué d'Emmanuel Macron. Un communiqué très soft, en disant que le peuple, en condamnant ce peuple algérien, et en même temps, il le célèbre comme un combattant de l'indépendance. C'est-à-dire que Emmanuel Macron fait de Bouteflika un combattant de l'indépendance, alors que de nombreux Algériens pensent que Bouteflika n'a été pour rien dans l'indépendance, qu'il n'a pratiquement pas tiré une balle, et que son surnom de El Mali, c'était un prénom un peu surfait, puisqu'il était étudiant au Maroc, et qu'il est parti faire...
Il avait
un statut d'étudiant, et il est parti rendre visite à l'armée, à la NP stationnée au Maroc. Et vous dites qu'il n'a jamais étudié en plus.
Étudié.
Voilà, donc vous rajoutez un peu de l'eau à mon moulin. Et puis la troisième chose sur laquelle je voudrais que vous réagissiez, Emmanuel Macron vient de demander pardon aux Harkis. Pardon, oui. L'État français demande pardon pour un tas de choses, hein, on va y revenir. Et Bouteflika, en 2000, avait dit non, les Harkis ne peuvent pas rentrer en France, en Algérie. Ils sont considérés comme des traîtres. Sur ces trois pastilles, dilemme, maladie du pouvoir, Macron, qui en fait un combattant de l'indépendance, mais qui en même temps n'envoie pas ses condoléances au président actuel de l'Algérie, mais qui dit que le peuple français souhaite au peuple algérien plein de choses, qui, en tout cas du point de vue du dialogue et du développement, et puis sur les Harkis que Bouteflika a traité comme traîtres et que même les enfants ne pouvaient pas rentrer au pays. Sur ces trois choses-là, et après on reviendra sur, bien sûr, le bilan d'Abdelaziz Bouteflika.
Sur la première chose, la maladie du pouvoir. Pour Bouteflika, c'était une pathologie que j'espère n'est pas contagieuse. Là où la pathologie s'est déclarée, c'est en 2008, où il a tout fait pour changer la constitution, qui est une constitution où les pouvoirs étaient équilibrés et les mandats présidentiels plafonnés à deux, c'est-à-dire un seul renouvellement. Et il s'est engagé dans la bataille pour être président à vie. Sachant qu'en 2008, c'est 3 ans après son séjour, ce que j'appelle le Val-de-Grâce saison 1, donc il n'était pas très en forme, mais il a forcé ce passage-là. Et ensuite, oui, c'est une maladie parce que les 2 derniers mandats, qui étaient bien sûr des mandats de trop, son œuvre, c'est la déconstruction de l'État.
Alors, on y reviendra dans un instant. Est-ce que c'est quelque chose... est-ce qu'on n'était pas déjà au courant de ça, puisqu'on attribue à Bouteflika une phrase, notamment autour du discours de Constantine, où il a dit « ne mut kursi », c'est-à-dire « je mourrai sur le trône ». Est-ce que c'est vrai, cette rumeur? Est-ce que c'est une phrase qu'il a réellement prononcée? « Je mourrai en poste ». Est-ce que c'est vrai, ça?
Non, j'ai cherché, je n'ai pas entendu.
Donc c'est une...
Mais ce qui est vrai, c'est en plein printemps arabe, en 2012, c'était sa dernière adresse au peuple algérien. Il a dit « Tabjnana, notre temps est révolu ». Donc...
Genre, on fait la transmission.
On passe le relais. Voilà, parce que le printemps arabe, en Algérie, le boulet est passé de très près. Et c'était son dernier discours, Sétif, je crois que c'est mois d'avril 2012... Mois de mai 2012, où il s'est adressé la dernière fois au peuple algérien, où il a annoncé « je passe le relais ». Il a mis du temps. Donc là, il a fait le contraire de ce qu'il avait déclaré, ce qui est assez fréquent chez les hommes et les femmes politiques. Mais toujours est-il, il n'a jamais déclaré clairement, mais son action, son maintien au pouvoir, et surtout après le Val-de-Grâce saison 2, où il était paralysé sur fauteuil roulant, il y a eu la communication, je veux dire la non-communication, l'opacité. Sa première apparition, c'était le jour de vote où il était sur un fauteuil roulant. Donc, physiquement, il était incapable. Bien sûr, il y a eu des ministres laudateurs qui ont dit « Oui, mais il travaille avec sa tête, c'est pas avec ses pieds ». On l'a même comparé à Franklin Roosevelt.
Oui, qui se déplaçait en roulant.
Voilà. J'ai trouvé ça.
Ouais, mais j'aimerais bien que vous m'éclaircissiez sur une chose. Bouteflika arrive, donc il est intronisé après le haut comité d'État, donc président Zeroual. Donc il arrive, il est donc intronisé par les généraux algériens. On va le chercher dans son exil doré. Oui. Au Moyen-Orient, après avoir bien sûr proposé à Etameud, à Boudiaf, etc., tous ces gens-là ont refusé. Et il arrive, il prend le pouvoir et il réinvestit le magistère de la parole. Il parle, oui. Parce qu'il y avait une période glaciale, pour pas dire c'est une glaciation. Les Algériens ne parlaient plus, c'était pendant 10 ans la décennie sanglante, des massacres. On dit officiellement qu'il y a 200 000 morts, mais beaucoup de gens pensent qu'il y en a beaucoup plus.
Hein. En réalité, beaucoup moins.
Beaucoup moins. Enfin, les chiffres sont contestés. Et là, il réinvestit le magistère de la parole. Et là, même, il dit les solutions, il montre sa poche comme ça, dans un discours, il dit « Voilà, c'est dans ma poche enfin, ». Il se moque un peu des gens. Et il est très volubile. Il réinvestit le magistère de la parole. Donc, quelque part, les Algériens se remettent à parler. Et ce Bouteflika-là dit, est parti vers le consensus. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il dit « Peu importe où les Algériens se rencontrent, du moment qu'il faut avancer l'Algérie ». Et il faisait allusion à Sant'Egidio, qui avait été critiqué et contesté à l'époque par l'armée, où Sant'Egidio, où il y avait Etameud, il y avait Brahimi, il y avait les gens, il y avait Ali Yahya, il y avait
Hamid Mehri du FLN,
voilà, il y avait Ali Yahya. Et donc, ils étaient pour une solution de crise, pour une sortie de crise avec le consensus, en associant les islamistes. Et Bouteflika disait à cette époque, peu importe où les Algériens se retrouvent, en faisant allusion à Sant'Egidio, du moment qu'ils font avancer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce Bouteflika-là et le Bouteflika d'après, qui s'est complètement replié sur lui-même?
Rendons à César ce qui est à César. La réconciliation nationale, celui qui a commencé, c'est Lamin Zerouel, par la loi sur la clémence, Rahma, où il a commencé, initié, et ensuite, quand Bouteflika est venu au pouvoir, il a trouvé le package de la réconciliation ficelé.
Que beaucoup traitent d'amnistie, hein.
Oui,
mais d'accord.
Oui,
ouais, y a voilà, réconciliation oui. pour voilà. le pouvoir de l'époque, oui. mais pour la majorité des Algériens, voilà. c'est une amnistie.
Il a trouvé ce paquet-là. Zerouel a démissionné parce qu'il ne voulait pas de ce paquet-là. Zerouel disait ceux qui ont du sang sur les mains ne seront jamais pardonnés. Et Bouteflika a accepté ça, donc il a eu un discours consensuel. Et surtout, il faut lui rendre justice parce qu'en 99, c'est la première fois où il y a un candidat, par le verbe, il a séduit, il a même fait rêver. Bon, ça n'a pas duré. Il a fait rêver.
Oui, il a réinvesti le magistère de voilà, la parole.
Voilà. Et surtout, il traînait dans son sillage un parfum de Boumediene. Donc, il a fait rêver. Et par la suite...
Le retour de l'homme fort.
Par la suite, c'est connu, les gens qui l'ont connu pendant les années Boumediene, c'était pas un grand bosseur. Quand on est chef de l'État...
C'est un jouisseur aussi.
Mais quand on est chef... L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut bosser un peu. Ce n'est pas son cas. Et en plus, il délègue très peu. Donc, la concentration du pouvoir et il a un défaut lié à sa traversée du désert. Il est méfiant.
La non-délégation étant un dénominateur commun oui. à tous ces chefs d'État et à tous ces dirigeants de cette région. C'est quand même le Zaïm, oui. c'est le chef.
Sauf que Zerouel.
On ne délègue pas dans ces.
Que Zerouel a délégué l'économie. À l'époque, il avait un jeune Premier ministre, Ouyahia, qui était normal. Et Zerouel ne s'est occupé que des choses sécuritaires. Ouyahia, à 44 ans, était un Premier ministre normal. Donc, Zerouel a délégué, il ne s'occupait que des questions sécuritaires. Donc, lui, il n'a rien délégué. Et donc, l'euphorie a duré un an et demi. Et surtout, il faut rappeler que Bouteflika bénit des dieux parce qu'il a été très bien servi par un calendrier funéraire. Il est au pouvoir. Il trouve un agenda qui a été initié par Zerouel, le sommet de l'Union africaine à Alger. Donc, déjà sous les projecteurs, à quelques mois de son élection, parenthèse son élection, quelqu'un qui court tout seul, il ne peut pas arriver en dernier. Donc, il est arrivé en premier parce qu'il a couru tout seul. Bon. Et après le calendrier funéraire, Hassan II meurt. Il y va. Tout le monde se souvient de son marathon derrière le corps de Hassan II. Il a rencontré Clinton, Chirac, le premier ministre israélien.
Et c'est là où il sert même Ehud la main Barak. De Ehud Barak.
Ehud Barak, oui.
Je crois que c'est le seul dirigeant algérien
oui.
qui a voilà. aujourd'hui à serrer voilà. la main d'un dirigeant voilà. israélien.
Et peu après, le roi de Jordanie meurt. Hussein, le vrai roi, pas l'actuel. Le vrai roi meurt. Il y va. Hafez al-Assad meurt, il y va. Donc, tout de suite, il s'était mis sur les radars internationaux, notamment grâce à un calendrier funéraire. Il n'y est pour rien. La mort, c'est une chose de Dieu. Donc là, cette période-là, le discours, c'était l'Algérie est revenue sur les
L'Algérie
radars.
L'Algérie est de retour.
Et de retour. Et tout de suite après, là où il est béni des dieux, tout de suite après, le pétrole a dépassé les 100 dollars pour atteindre les 150 dollars. En même temps, il y a eu une excellente pluviométrie. Il avait toutes les cartes en main. Dans son bilan, ce qu'il faudrait lui reconnaître, je ne sais pas si c'est lui qui a pris la décision, mais il était président, donc ça lui revient, c'est le remboursement anticipé de la dette. Ce qui est remboursé...
Incroyable. C'est un des rares pays dits oui. du tiers-monde...
Oui.
Qui rembourse sa dette rubis sur ongle.
Alors
qu'on ne lui avait rien demandé.
Oui, par anticipation.
C'est quoi? C'est le NIF algérien? C'est l'orgueil mal placé?
Non,
c'est quoi?
Non. Déjà parce que le pouvoir était traumatisé par le FMI. Les milieux des années 90, l'Algérie n'avait pas de quoi payer les trois prochains bateaux de blé. Donc c'était. Et là, pour se libérer. Et en plus, là où je modère un peu, parce que quand on est endetté, le FMI, chaque dollar est traçable. Quand on rembourse, on fait ce qu'on veut de son argent. Aucune traçabilité.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. On revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours en compagnie de Brahim Elmili, spécialiste de l'Algérie, entre autres, avec son histoire secrète de la chute de Bouteflika, paru aux éditions L'Archipel en 2020, et puis France-Algérie et histoire secrète d'une relation. Je voulais aussi que vous réagissiez sur ce communiqué d'Emmanuel Macron, qui ne s'adresse pas à Abdelmadjid Tebboune, le président actuel de l'Algérie, mais qui s'adresse au peuple algérien, en disant qu'on espère que ça va, la solidarité, etc., le dialogue va continuer, et qui en même temps encense Bouteflika en tant que combattant de l'indépendance. Bouteflika a été un combattant de l'indépendance ?
Emmanuel Macron a respecté les formes. Bouteflika est recensé comme ancien moujahed, capitaine de la LN. Ce n'est pas à Emmanuel Macron de remettre ça en cause. Donc, il était dans la LN. Bon. Ensuite, sa participation physique dans les combats, mais Boumedine lui a confié quelques missions. Il était dans la LN. Donc, mais sur ça, Emmanuel Macron respecte la forme. Encore une fois, il a poussé le respect de la forme à présenter ses condoléances au peuple algérien, parce que formellement, c'est le peuple algérien qui l'avait élu 4 fois.
Alors justement, Bouteflika s'en va, il meurt, et l'État algérien met le drapeau en berne pendant 3 jours. Mais il n'y a pas de deuil national.
C'est ça qui est curieux. C'est parce que sous le règne de Bouteflika, parce qu'il faut rappeler, Bouteflika est mort comme ancien président. Formellement, il a démissionné. On respecte le formalisme. Il a démissionné. Et quand on voit les présidents, les anciens présidents qui sont morts sous Bouteflika, comme Chedli, Ben Bella, il y a eu 8 jours de deuil national. Même Ali Kafi, qui était le chef du HCE, une instance provisoire, il a eu 8 jours de deuil national. C'est le protocole. En ce qui concerne Bouteflika, le protocole n'a pas été respecté à la lettre. C'est-à-dire, le protocole, si on veut vraiment le tarif syndical, c'est 8 jours de deuil national. Là, il y a eu 0 deuil national. Et en même temps, comme dirait l'autre, il y a eu aux funérailles le président Tebboune, tout le gouvernement, sauf peut-être le ministre des Affaires étrangères qui était à l'ONU, l'Assemblée générale allait commencer.
Mais est-ce que là, il n'y a pas... Bon, je comprends, c'est un ancien président, oui. Mais depuis 2 ans, on entend que c'est Issahba, c'est le groupe corrompu, etc., dont oui. Bouteflika a été la figure de proue. Oui. Et donc, en même temps, on le voue aux gémonies, en disant que c'était le chantre de la corruption, etc., etc. Et en même temps, on va à ses obsèques. Ça veut dire quoi ?
Oui, non. Toujours, parce que l'Algérie, c'est un pays où le formalisme a remplacé la légalité. Formellement.
Ah, c'est intéressant ce que vous dites.
Formellement, Bouteflika n'a jamais été convoqué par la justice. Et heureusement. Donc, lui, autant que personne, il n'est pas concerné. Donc, c'est son entourage qui est jugé, lui n'est pas concerné. Donc, il n'a rien à voir. Donc, c'est normal qu'on assiste à ses funérailles. D'une chose, après le Hirak, il y avait un débat en Algérie où les gens demandaient son jugement. J'étais contre, parce que surtout les 2 derniers mandats de Bouteflika, il a déconstruit l'État. Et le grand défi de Tebboune, c'est la reconstruction de l'État.
On va y arriver dans un instant.
Faire passer un ancien président devant la justice, ça rend plus compliqué la reconstruction de l'État.
Un instant sur les obsèques. Oui. Moi, j'ai toujours entendu parler que Bouteflika voulait être enterré là où sa mère était enterrée, là où son frère aîné était enterré, à Benaknoun. Et là, qui a décidé de le mettre au cimetière de l'Alia ?
C'est le protocole, c'est le carré des martyrs comme ancien président.
Ça, donc là, la famille n'a rien à dire.
Ça, c'est le protocole. Il est chef de l'État. Toujours le formalisme est respecté. Il est chef de l'État. Je ne connais pas ses dernières volontés. Mais ce qu'il a voulu ou pas, ça, c'est le protocole et c'est normal. Le carré des martyrs, puisqu'il figure sur la liste des anciens moujahidines. Il a rejoint la LN en 56 ou en 57. J'ai oublié la date exacte.
Et justement, est-ce que finalement on a décidé de faire ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas un risque pour le pouvoir actuel, le fait de faire un non-événement de la mort de Bouteflika ou de ses obsèques, et c'était pas en faire un événement. Donc ils ont accepté, comme vous dites, vous avez une très belle expression, de faire le tarif syndical.
Oui, là c'était moins que le tarif syndical. il se devait de lui rendre les honneurs parce que ça reste un ancien président de la République. Il se devait. Ça c'est normal. Juste j'ouvre une parenthèse. Le président égyptien Hosni Moubarak, qui a été chassé par le pouvoir, il n'a jamais démissionné, qui a été jugé, on l'a vu dans une cage, tenu de prisonnier. Et quand il est mort, il a eu droit à des funérailles nationales parce que les Égyptiens disent que c'est un héros de la guerre de Kippour. Donc, quelque part, il faut comprendre, quand quelqu'un meurt, on retient les bonnes choses. On a tendance à retenir les bonnes choses. Ceci dit, le bilan de Bouteflika, on ne peut pas dire c'est noir ou c'est blanc.
D'accord. Alors, une ou deux minutes avant d'arriver au bilan de Bouteflika et avant d'arriver à la comment il a déconstruit l'État, comment il a mis la presse à genoux, la société civile à genoux, comment il a laminé les partis politiques, avant d'arriver à cela, peut-être une ou deux minutes sur l'accès au pouvoir, sa complicité avec Ouari Boumediene, avec tout ce qui s'est passé. Donc, Abdelaziz Bouteflika, on dit qu'il a été 20 ans au pouvoir, mais en fait, il est au pouvoir depuis 1962. Oui. On se rappelle qu'il a été le plus jeune ministre des Jeunesse et des Sports,
oui,
d'abord.
Ben, ça a duré un an.
Et ensuite, des Affaires étrangères. Donc, il y a eu 62, donc l'indépendance. Ensuite, le coup d'État de 65 avec Ouari Boumediene. On dit que la révolution a été dévoyée. Donc, est-ce que c'est à votre avis? Et là, on assimile aussi Bouteflika aux liquidations physiques qui ont eu lieu, et notamment l'une des plus emblématiques de Krim Belkacem, qui était le négociateur des accords d'Évian et qui était peut-être le futur président de l'État algérien, qui a été assassiné sur les ordres du colonel Boumediene. C'était Kasdi Merbah, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur.
Non, patron de la sécurité militaire.
Patron de la sécurité militaire, qui a fait l'œuvre, et qui a été cautionné par Bouteflika. Et sur cette période-là, est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux mots?
Juste sur cette période-là, Boumediene, c'est quelqu'un qui ne mettait pas tous ses œufs dans un même panier. Les choses confidentielles, c'était la sécurité militaire.
Merbah à l'époque.
Voilà. Bouteflika n'était pas consulté sur ces enjeux-là.
Donc, parce qu'il était ministre des Affaires étrangères. Quand Krim Belkacem a été assassiné, oui, il a été ministre des Affaires étrangères.
Mais ce n'est pas un sujet de diplomatie, c'est un sujet sécuritaire. C'est un crime, c'est un assassinat, mais ce n'est pas un sujet diplomatique. Donc, Bouteflika...
Je rappelle, Krim Belkacem a été étranglé dans une chambre d'hôtel à Francfort.
À Francfort, voilà. Khidr aussi, à Madrid. Donc, mais ce n'est pas un sujet diplomatique. C'était hors de la compétence de Bouteflika. On associe son nom parce qu'il était membre du Conseil de la Révolution. Mais le Conseil de la Révolution, c'était une façade. Il ne se réunissait pas tout le temps. C'était Boumediene qui décidait.
Il décidait tout seul.
Il décidait tout seul. Bon, parfois, il y avait un... Mais quand il y a eu des vrais débats, comme sur la révolution agraire, Qaïd Ahmed, paix à son âme, qui était contre la révolution agraire, il est parti en exil. Ça veut dire que Boumediene n'écoutait pas sur ses choix dogmatiques et fondamentaux. Il n'écoutait pas. Donc, associer Bouteflika aux assassinats au pluriel, Krim Belkacem, Khidr, c'est un raccourci. Il n'est pas associé parce que Bouteflika n'a jamais participé au sujet sécuritaire. Et je lance un scoop. À l'époque, Merbah, patron de la sécurité militaire, voulait mettre certains officiers des services secrets sous couverture diplomatique dans quelques ambassades. Et Bouteflika s'y est opposé. Pendant tout la période de Boumediene, ça Boumediene l'a écouté, il n'y a pas eu...
D'État dans l'État.
Il n'y a pas eu d'éléments d'officiers de la sécurité militaire dans les ambassades. Ça, donc, il y avait aussi une grande méfiance. Merbah se méfiait beaucoup de Bouteflika. Et je raconte une anecdote qui est racontée dans ses mémoires, Dr. Ahmed Talib. En 78, Boumediene appelle Ahmed Talib, il a reçu un message, le roi du Maroc voulait prendre l'encre avec les sociétés algériennes. Et Ahmed Talib Boumediene désigne Ahmed Talib, et pas Bouteflika. Et c'est Ahmed Talib qui est parti à Genève rencontrer les émissaires du roi, parce que je ne sais pas si Boumediene se méfiait de lui, mais Merbah très certainement. Quand les sujets sont sensibles et délicats, quand il faut bosser, il n'est pas l'homme de la situation. Donc 78, c'était plusieurs mois avant la mort de Boumediene. Et les négociations se sont arrêtées avec la mort de Boumediene. Donc, les choses sensibles et sécuritaires ne sont pas du ressort de Bouteflika. Bouteflika, même lui, il a raconté quand Jean Daniel, dans Nouvel Observateur, révèle la base secrète française B2 Namous, qui existait jusqu'en 78, il n'était pas au courant. Il l'a dit plus tard dans son exil, il n'était pas au courant. Donc il ne faut pas tout mettre, et encore moins les assassinats, sur le dos de Bouteflika.
Une dernière petite question. Donc, Bouteflika est adoubé par son mentor, le colonel Boumediene. Il est installé donc, là où vous venez de décrire. Donc Boumediene meurt. Bouteflika prononce son éloge funèbre.
Oui.
Il s'attend à être nommé comme successeur.
Oui.
L'armée le dégage. Il nomme Chadli à sa place.
Oui.
Bouteflika part en exil doré au Moyen-Orient. Il revient au moment de la décennie sanglante où le Haut Comité d'État avec Zeroual, il est intronisé. Et là, Bouteflika prend sa revanche.
Oui et non. Tout d'abord, juste rectification. Zeroual, entre-temps, il a été élu président de la République. Il a été élu. Et après, Zeroual démissionne parce qu'il était contre la réconciliation nationale. Et on fait appel à Bouteflika, comme on avait fait appel à lui avant de faire appel à Zeroual. Il a pas dit ni oui ni non, il a pris son avion, il a disparu des radars. Il a fait Alger-Genève. Il n'est plus rentré pendant un certain temps. Il faut aussi dire qu'il y a une chose qui Bouteflika a la passion des voyages. 74, c'était l'Assemblée générale de l'ONU. Bouteflika a présidé l'Assemblée générale de l'ONU, je rappelle, parce que la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est une présidence tournante. C'était le tour de l'Algérie. Il se trouve que Bouteflika était ministre des Affaires étrangères, il a présidé. Et ensuite, il y a eu un événement fin 75 qui fait que l'ancien ministre de l'Intérieur, PSONM, Medri, officiellement se suicide. Et Bouteflika a été absent en cumulé 10 mois de l'Algérie. Il n'a pas mis les pieds pendant 10 mois de l'Algérie, quand il était ministre. Donc il faut dire qu'il a toujours eu cette passion des voyages, après c'est devenu l'exil. Quand on a fait appel à lui, il a vu ce qu'on appelait à l'époque les décideurs. Ils lui ont dit oui, voilà, carte blanche avec une feuille de route. Le programme, c'était la réconciliation nationale. Il fallait arrêter. Ce n'est pas une guerre civile, il fallait arrêter le terrorisme. Bon. Il a accepté et très vite, il a pris tout le monde de court. L'un de ses premiers déplacements, il y a un forum, parce qu'il connaît le présent de ce forum, c'est un Suisse, qui est le forum Crans-Montana. Le forum Crans-Montana, c'est un sous Davos. Il est parti quand même.
C'était un habitué de ce forum.
Voilà, c'était un habitué. Il est parti quand même. Donc lui, il se dit, pour ne pas être entre les mains des militaires, je fais un raccourci, mon assurance vie, c'est l'étranger. C'est pour ça qu'il est parti, je crois que c'était à Tokyo, deux ou trois ans après, pour le G8. Donc, lui, c'était ça. Et là où il a fait, pour la première fois, il a fait une visite d'État. Chadli a fait une visite de travail. Il a fait une visite d'État. Il est venu. Et c'est là où il a dit, pour enchaîner, il a dit « Les Harki jamais ». C'est un discours, j'imagine, pour l'opinion nationale, parce qu'en ce moment-là, l'opinion nationale n'était pas prête, encore moins prête. Là, sur les Harki, il y a un travail pédagogique à faire, ça a été fait, mais tous les gens n'ont pas lu les bons livres, ça a été fait. Et il a continué, et là où il aurait dû se retirer, c'est après Val-de-Grâce, saison 1, 2005.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
en compagnie de Brahim Elmili sur cette histoire passionnante de l'Algérie et sur tous ces soubresauts, ce pays qui ne fonctionne que par radicalité, par évidemment tranché et qui n'arrive pas à trouver une voie pacifique d'émergence. Ce pacifisme que le Hirak a mis en avant avec la Selmia, on va y revenir dans un instant. Mais pour revenir très brièvement sur la mort de Bouteflika, on a eu le décès de Bougueira récemment, qui était
ancien
Moudjahid, qui est une figure emblématique de la révolution. Yassef Saadi vient de décéder. On a Abdennour Ali Yahia, qui a été une figure emblématique de l'indépendance de l'Algérie, qui vient de décéder. Bouteflika vient de décéder, puis bien sûr j'en oublie beaucoup. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une passe qui se tourne, que tous ces gens qui ont été, d'une façon ou d'une autre, concernés par la révolution, par l'indépendance, sont en train de disparaître? Est-ce qu'il y a une page qui se tourne?
Tout d'abord, il y a une logique biologique. Le mois de juillet prochain, on va fêter le 60e anniversaire de l'indépendance. Donc là, on parle, le plus jeune aujourd'hui est octogénaire. Bon. Donc il y a une logique biologique. Maintenant, l'enjeu, c'est la relève. C'est ça l'enjeu, la relève. Le problème de la classe politique, parce que on dit qu'il n'y avait pas de parti politique, il y en avait, sauf que, et là je vais me faire allumer, les partis politiques qui existaient pendant le règne Bouteflika, qui étaient agréés, ce sont des partis qui passaient plus de temps à négocier les sièges municipal, législatif.
À les acheter.
Négocier.
Souvent, c'était des achats.
Voilà. Souvent, mais toujours à négocier. Il y a des partis qui servent d'alibi. Donc, ce Bouteflika, il a été créé des opposants professionnels. Quelqu'un qui se profession opposant. Il s'oppose sans aller trop loin.
Alors qu'en même temps, la presse a été muselée. La société civile a été empêchée de se développer. Les syndicats de l'enseignement ou de la santé étaient réprimés. Les associations de familles de disparus étaient complètement aussi... les manifestations étaient réprimées. Pendant le règne de Bouteflika, on a assisté à un assèchement de ce qui faisait le PEPS de l'Algérie.
Oui. La presse muselée, il faut nuancer. Ce qu'on appelle les médias lourds, la radio-télévision, c'est muselé. Ça, c'est muselé. La presse écrite, notamment la presse arabophone, s'autorise des choses. C'est parce que les journalistes ne savent pas. Et à un moment donné, ils ont réalisé qu'avec Internet, on ne pouvait pas museler, sauf ce qu'on appelle les médias lourds. Là, c'est muselé. Donc, il faudrait nuancer aussi. Hein. Et sous Bouteflika, c'est quelque... Son système, le pouvoir, parce qu'il n'a pas fait tout ça tout seul, ils ont créé une multitude de partis uniques. Et à chaque fois qu'il se présente, on a face à lui des candidats alibi, et les autres partis qui sont censés proposer quelque chose, ils se contentent de le soutenir.
Alors, ce que vous nous dites, c'est qu'il a installé un système d'allégeance totale. Donc, vous dites, il a donc, en même temps qu'il a donc réprimé, muselé, enfin, que son règne donc a été versé là-dedans, il a déconstruit l'État, c'était la corruption, et le Hirak est venu mettre un terme à tout ça en disant barakat.
Oui, le Hirak est une révolution. Est-ce que c'est une révolution spontanée? La question se pose. J'y crois moyennement, mais toujours est-il, c'est le résultat qui compte.
Alors, vous savez, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le Jezeer Jadida, les dirigeants actuels parlent de Hirak béni, comme le Ramadan béni.
Oui, non.
C'est quoi cette sacralisation?
Non, cette sacralisation que j'entends bien, parce que moi, je distingue deux phases dans le Hirak. Le Hirak, phase 1, il avait un objectif, pas de cinquième mandat. Il a tenu bon, il n'y a pas eu de cinquième mandat. Ensuite, après que Bouteflika a démissionné devant les caméras, ensuite, le Hirak s'était dégagé tous. Et là, Le Hirak s'est vautré, ce que j'appelle, dans un dégagisme outrancier. Et l'erreur de Hirak, c'est qu'ils n'ont pas essayé de se structurer et avoir
une représentativité
et surtout avoir une offre politique, parce que dégager tout, c'est pas une offre politique. Toutes les crises,
donc il y a un acte manqué là et une occasion ratée.
Oui, parce que toutes les crises se terminent par les négociations. La guerre d'Algérie s'est terminée par les négociations à Evian. Je prends l'actualité Venezuela. Maduro, qui déteste son opposant, je crois qu'il s'appelle Guaido, ça fait 6 mois qu'il négocie. Si on veut sortir de crise, on négocie. Et là, le Hirak dit non, on négocie pas avec les militaires, on négocie pas. Bon, si on négocie pas, ils sont en position de force, parce que la politique, c'est l'art du compromis, à ne pas confondre avec la compromission.
Alors, depuis le Hirak, donc, on assiste quand même. Il y a moins de manifestations. On est passé de 20 millions de manifestants dans toute l'Algérie. Maintenant, c'est réduit à Alger, puis à quelques villes, à quelques wilayas, dont en particulier en Kabylie. Donc, on assiste à pas forcer à une espèce de marche en avant des institutions. Donc, un président élu, un référendum, une constitution. Et on nous parle de nouvelle Algérie. On nous parle de. Mais il y a une répression qui semble s'abattre quand même. Un peu de façon aveugle.
Ce qu'on appelle les délits d'opinion. Je constate que quand il y a une instruction judiciaire, le seul habilité à communiquer, c'est le procureur. Et aucun procureur n'a communiqué sur les dossiers juridiques en cours. Donc, il y a une certaine opacité. À partir du moment où il y a de l'opacité, ça ouvre la voie à tous les fantasmes. On n'a pas communiqué. Si c'est vraiment des délits d'opinion, c'est condamnable. Mais pour le moment, là où je suis, je condamne l'opacité.
Alors, le moindre post sur Facebook est assimilé à une atteinte à la sûreté de l'État. Alors, on ressent les vieilles ficelles depuis 62, hein. L'éternel ennemi marocain, l'éternel complot kabyle, l'éternel complot du Mossad d'Israël. Et on ressort ça 60 ans après et bon, ça marche. Ça veut dire quoi?
Je dirais pas depuis 62, parce que depuis 62, il y avait pas les réseaux sociaux déjà.
Ouais.
Voilà. Bon. Le Maroc, il y a un vrai sujet avec le Maroc. Rompre les relations avec le Maroc, c'est une décision saine, parce que on met fin à une hypocrisie. On avait des relations hypocrites, vaut mieux ne pas avoir de relations. Comme ça, parce que rompre les relations diplomatiques, c'est un échec de part et d'autre. J'espère que ça va ramener les Marocains autour d'une table de négociation. Ça sera compliqué. Parce que le cœur du sujet, c'est le Sahara occidental. Et pour tous les Marocains, sans exception, le Sahara occidental, c'est la moitié de leur territoire. C'est entrer dans leur pathos.
Oui, puis au-delà, c'est la contestation des frontières. C'est-à-dire que le Maroc n'a jamais reconnu les frontières.
Si, les frontières, il les a reconnues très tardivement. Ça a été signé ensuite, c'est passé à l'Assemblée marocaine, plusieurs années plus tard. Mais c'est reconnu.
Même Tindouf à l'époque, le Maroc.
Oui, ouais, c'était en 62, mais ça a été recollé, ça a été signé.
On va essayer d'avancer, il ne reste plus beaucoup de temps. Sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, à quoi est confronté Abdelmadjid Tebboune, à quoi sont confrontés les nouveaux dirigeants, reconstruction d'État. Vous êtes un optimiste invétéré, vous pensez que les choses peuvent sortir par le haut, vous avez des propositions. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer, où peut aller l'Algérie?
Là, on va avoir les élections municipales. Pour moi, ce sont des élections importantes. Et là, je suis peut-être excessif, mais je le pense, j'aurais pu le dire différemment. Appeler au boycott des municipales, c'est un acte criminel. Non seulement responsable, mais criminel. Parce que la mairie, c'est le premier lien entre le citoyen et l'État. Donc, on reconstruit l'État par le bas, à travers les mairies. Et ce que je constate, les dernières élections depuis que Tebboune est élu, en termes de participation, les pourcentages donnés sont réels. Il n'y a pas eu de fraude. ils ont dit 22% de participation aux législatives. Ça, c'est le socle, ce que j'appelle des électeurs professionnels. Les corps constitués, il y a un socle. Donc, il y a déjà ça qui est un pas, on distingue qu'on ne gonfle plus les chiffres. Et je suis intimement convaincu que lors des municipales, j'ai vu que le RCD appelait au boycott. On va voir qu'est-ce que ça va donner.
Il n'y a pas eu le boycott, mais enfin, d'après certaines informations, oui. En sous-main, il investit certains candidats sous oui. Le sigle indépendant.
Oui,
ça,
oui.
Ça, c'est d'accuser
oui,
l'interne.
Oui, voilà,
c'est... Il nous reste 2-3 minutes. Oui. Vous-même, vous dites, vous rejetez le mot de transition. Vous souhaitez qu'il y ait une rupture.
Une rupture.
Alors, cette rupture, comment elle peut se manifester pour assainir la situation et engager l'Algérie sur une voie nouvelle?
C'est une rupture qui se fait à partir de projets structurants. Il y en a plusieurs. L'éducation, et moi, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est de faire des territoires premier pas vers la décentralisation. Et là, il y aura les décisions de la vie quotidienne qui seront déléguées à des territoires. Je dis territoires et pas des régions. Les territoires à déterminer, selon leur homogénéité culturelle, climatique, économique, il faut avoir des territoires qui ont des complémentarités économiques. Aujourd'hui, c'est le sud qui nourrit l'Algérie. Avant, c'était le nord. Le nord, la Métidja, est bétonnée. Donc, oui. Donc voilà, donc ça c'est selon moi c'est un projet structurant et là ce serait vraiment une nouvelle Algérie où l'État en se décentralisant se rapproche encore plus des citoyens.
Donc une refonte de l'État, une refonte des gouvernances,
oui.
Et une meilleure proximité et
oui.
Une construction peut-être d'une démocratie à l'algérienne, mais ça c'est un autre débat. On aura l'occasion d'y revenir. Brahim Elmili, merci beaucoup d'être
venu. Très volontiers, merci à vous.
C'était un vrai plaisir et à très très bientôt. On n'en a jamais fini, on n'en finira jamais. À bientôt.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.